Aujourd'hui, nous allons avancer dans notre, je crois que nous allons terminer sur la vision. Et on va encore en parler. Alléluia. Parce que c'est essentiel. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui n'a pas d'objectif. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui n'a pas d'orientation. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui n'a pas de direction. C'est un homme qui va dans tous les sens. En fait, un homme qui n'a pas de vision est un homme qui s'émeut sur tout. Qui est, comme on dit, sentimental. Il fonctionne avec ses émotions. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un homme de vision n'est pas un homme d'émotion, mais c'est un homme de conviction. C'est un homme de conviction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la conviction? C'est quelque chose sur laquelle tu es convaincu. Quelque chose sur laquelle on n'a plus besoin d'être évangélisé. Alléluia. Combien sont convaincus que Jésus est Dieu? Combien sont convaincus qu'ils sont chrétiens? Combien sont convaincus qu'ils servent le vrai Dieu? Alors, tu n'as pas besoin qu'on te convainc là-dessus encore. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Mais si on essaie encore de te convaincre, ça veut dire que tu n'as pas de conviction. Si on essaie encore de te convaincre sur la vision que tu as, sur la nécessité d'avancer dans la vision que Dieu t'a donnée, tu es un homme d'émotion. Alléluia. 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 Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de vision. Tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient des hommes de vision. Étaient des hommes de vision. Parce que la vision te donne une discipline. Discipline de vie. Discipline de caractère. Discipline d'attitude. De manière d'être. Et à cause de la vision, tu te dois en même temps aussi d'abandonner certaines choses. Parce que la vision te l'impose. Alléluia. La vision te l'impose. Regardez nos compétiteurs, chaque fois qu'ils vont représenter nos nations, ils se privent de beaucoup de choses. Ils se privent de leurs femmes, de leurs familles. Ils se privent même de voir les gens, même les fans. Ils se privent parce qu'ils doivent être concentrés. Alléluia. Parce qu'ils doivent être concentrés. Malheureusement, aujourd'hui, on a très peu d'enfants de Dieu qui sont des hommes et des femmes de vision. Ils sont pleins d'émotions. Ils sont pleins de sentiments. Ils réagissent en fonction de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils ressentent. Et c'est ça qui crée beaucoup de stagnation et beaucoup de retard dans la vie de beaucoup. Alléluia. Alléluia. Revenons en même temps dans notre texte. Le thème de ce soir, de ce matin, c'est simple. La vision est pour un temps déterminé. La vision est pour un temps déterminé. Dis à ton voisin, la vision est pour un temps déterminé. La vision est pour un temps déterminé. Alléluia. Habacuc chapitre 2, le verset 2 à 3. Habacuc 2, 2 à 3. Ruth chapitre 1, le verset 15 au verset 17. Le verset 15 au verset 17. Est-ce que nous y sommes? Le verset 15 au verset 10. 17. Alléluia. Si tu es prêt, est-ce que tu peux te lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ruth chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien-aimés. Lorsque nous observons ce texte de Ruth, nous voyons la détermination, la persévérance, le sacrifice pour l'accomplissement d'une vision. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, il y a un prix à payer pour la manifestation d'une vision. Il y a un prix à payer. Et ce prix est à plusieurs niveaux. Ce prix est émotionnel. Ce prix est sentimental. Ce prix est psychologique. Ce prix est financier. Ce prix est matériel. Ce prix est même familial. Alléluia. Lorsque Dieu donne une vision à un homme, il lui donne l'opportunité de se séparer. Tu ne peux pas suivre une vision ou manifester une vision si tu ne te sépares pas de certaines choses. Tu ne peux pas manifester la vision de Dieu dans ta vie si tu n'es pas prêt à renoncer à certaines choses. Alléluia. Vous voyez? Lorsque nous avons reçu une prophétie du Seigneur, que nous avons un rêve ou que Dieu nous a montré une vision, il est naturel de penser que cela se réalisera le lendemain. Ah oui, j'en parlais, il y avait une de mes filles. Elle a reçu des visions, des songes il y a 10 ans. Yes, elle me dit, je pensais que ça devait se réaliser le lendemain. Je parle ici d'une révélation divine positive, pas d'un vœu pieux. Mais la vérité est qu'il faut du temps pour que certaines des révélations se réalisent. Il y a généralement un décalage entre le moment où nous recevons une révélation authentique de Dieu et le moment où elle s'accomplit. Il y a toujours un décalage. Toujours un décalage de temps. Un décalage de temps. Que nous le recevions directement ou d'une autre personne, parfois ce que Dieu dit peut ressembler à un mensonge parce que cela ne se produit pas aussi vite que nous le pensons. C'est pourquoi Habakkuk dit, elle ne mentira pas. Elle n'est pas un mensonge. Ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a dit n'est pas un mensonge. Elle ne mentira pas. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Mais bien-aimé, mais si la révélation, la vision vient réellement du Seigneur, nous ne devons jamais en douter. Nous devions nous accrocher à la prophétie ou à la révélation. Dieu n'utilise pas le même temps que le nôtre. Il a son propre temps. Il n'utilise pas notre emploi du temps. Il a le sien. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Il va dire qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans est comme un jour. Alors si Dieu te dit, attends-moi un jour, imagine ce que ça veut dire. Alléluia. Imagine ce que ça veut dire. Mes bien-aimés, Philippiens 4, 6, 7 nous dit de ne pas s'inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec action de grâce, fait connaître nos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui suppasse toute compréhension, toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la prophétie que tu as reçue, c'est pour un temps fixé. C'est pour un temps déterminé. C'est pour un temps déterminé. Dieu n'est pas sensible à ce que nous ressentons. Dieu est sensible à ce qu'il dit. Je répète, Dieu n'est pas sensible à ce que nous ressentons, mais il est sensible à ce qu'il dit. Ah non, ça dure déjà. Ah non, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je vais abandonner. Si Dieu l'a... Non. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, un homme qui s'appelait Elimelech va prendre une femme qui s'appelait Naomi. Ils vont décider d'aller vers une vision de prospérité, de grandeur. Sauf que Dieu n'était pas dans cette vision. Ils y sont allés tout simplement parce que là où ils étaient, il n'y avait plus à manger. Ils se sont dit, parce qu'ils ont des difficultés à cet endroit, certainement Dieu n'y est plus. Ils se sont dit, c'est tellement parce qu'ils n'ont plus à manger en cet endroit, Dieu n'y est plus. Ils se sont dit, parce qu'ils éprouvent des difficultés dans ce projet, Dieu n'y est plus. Ils se sont dit, parce qu'ils éprouvent de la sécheresse dans ce projet, Dieu n'y est plus. Et ils ont décidé, avec leurs émotions, avec leurs sentiments, d'aller trouver le bonheur ailleurs. Et c'est ailleurs là à créer la mort. Elimelech est mort. Ces deux garçons, Malcolm et Kiljon, sont morts. Et Naomi est restée avec deux belles filles dont elle devait avoir encore la charge. Elle devait encore les élever, leur donner à manger. Et la Bible dit qu'un matin, elle va apprendre que Dieu avait de nouveau visité le lieu où elle était partie. Bien-aimée, la vision pour un temps déterminé. Lorsque tu as la conviction que cette vision vient de Dieu, tu dois être patient. Toute vision qui vient de Dieu traverse le désert. Toute vision qui vient de Dieu connaît le retard. Toute vision qui vient de Dieu connaît les tribulations. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ceci est de lui. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit c'est celle-ci est ta femme, celui-ci est ton mari, que tu n'auras pas de troubles dans le foyer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit ça c'est ton travail, que tu vas arriver là-bas, toutes tes décisions vont être acceptées par ton DG. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré que c'est ça, t'as ouvert les portes pour une nation étrangère. Mais bien aimé, que là-bas tout va aller comme sur les roulettes. Toute vision a ses défis. Toute vision de Dieu a ses défis. Et nous devons les comprendre. Nous devons les comprendre. Naomi est comme nous aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui beaucoup de gens partent. Il y en a que c'est la volonté de Dieu. Il y en a d'autres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais parce qu'ils sentent mal, ils partent. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours t'interroger. Est-ce que c'est dans la vision de Dieu que je me retrouve à tel endroit? Est-ce que c'est dans la vision de Dieu que je me retrouve au milieu de telles personnes? Sinon, tu vas connaître beaucoup de difficultés et la mort. La mort. Alors cette femme a décidé avec son mari de s'expatrier, d'aller voir ailleurs, d'aller voir mieux ailleurs. Parce qu'à ces ailleurs-là, on disait qu'il y avait à manger. La nourriture était sur le goudron. Alléluia. Voyez? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui croient que lorsque tu vas en Europe, l'argent est sur la rue. Beaucoup de gens croient encore ça. Que non, il suffit juste de se baisser. Vous imaginez s'il y a peut-être 30 millions de personnes en France, on devrait en principe avoir 30 millions de milliardaires. Si l'argent était dans les rues, il n'y aurait pas de personnes qui dorment dans les rues. Il n'y aurait pas de personnes qui ont faim et qui s'alignent et qui vivent de ce qu'on leur donne chaque jour. Alléluia. Mais bien aimé. La vision est pour un temps déterminé. La vision est pour un temps déterminé. Tu peux avoir toute l'authenticité de la révélation, mais n'oublie jamais, tout ce que Dieu montre, tout ce que Dieu parle, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. La Bible nous apprend que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit qu'il veut faire, ou tout ce qu'il vous a montré, ou dit qu'il ferait, est pour un temps déterminé. Il détermine l'heure pour vous, ou qui que ce soit. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que cela se produise avant l'heure. Mais vous pouvez le retarder si vous ne coopérez pas avec lui et ne lui obéissez pas. Vous voyez? On peut retarder. J'aime la parole de Dieu. Regardez très bien. Le Seigneur dit, si elle tarde. Alors quand je parle de retard ici, ce n'est pas le retard que toi tu accuses à cause de tes émotions et ton désir de ne pas avancer. Non, vraiment, aujourd'hui là, je ne suis pas bien. Vraiment, mon cœur n'est pas en paix avec Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas pu à l'église. Je ne prie même pas. Je ne prie même pas. C'est à toi que tu accuses du retard. Ce n'est pas à Dieu. Il est Dieu sur son trône. Et il continue d'avancer. Avec ou sans toi. Ah non, vraiment, depuis là, depuis, Dieu ne fait que me dire ça. Vraiment, je suis fatigué. Je suis épuisé. Reste assis. Ça va avancer. Ça va avancer. Et le moment où tu vas te réveiller de tes émotions, tu auras accusé du retard. Et la seule personne à qui tu devras t'en prendre, ce sera à toi-même. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Satan sait comment nous jongler. Satan sait comment jongler l'être humain. Et il utilise ses émotions pour le jongler au quotidien. Veuillez prendre note de l'expression dont le temps est déjà fixé. Mais bien aimé, le prophète ne connaissait pas cette époque. Mais ce qu'on lui a assuré, c'est que cela arriverait. La Bible vivante rend ainsi le verset 3 de cette écriture. Il dit, mais ces choses que je planifie n'arriveront pas tout de suite. Ces choses que je planifie n'arriveront pas tout de suite. Lentement, régulièrement, sûrement, le moment approche où la vision sera réalisée. Si cela semble lent, ne désespérez pas, car ces choses se produiront sûrement. Soyez patients. Ils ne seront pas en retard un seul jour. Alléluia. 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 Un jour, le prophète Esaïe était là. Et des gens étaient autour de lui. Il a eu une vision. Il a dit, je vois une vierge accouchée. Et il y avait une vierge au milieu. qui a accouché. Mais tout le monde croyait que c'était la vierge là. Or, Esaïe prophétisait quelque chose qui devait accomplir 500 ans plus tard. Alléluia. Toi, tu veux que ça s'accomplisse maintenant. Si tu étais un lecteur de la Bible, tu dois comprendre que tu dois être patient. Tu dois comprendre que tu dois prendre tes émotions, emballer, mettre dans un paquet et mettre au feu. Parce que ça ne va pas t'aider, ça va te ralentir. Ça va t'épuiser. Ça va te distraire. Ça va te déconnecter. Écoutez, chaque fois que la vision de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, il faut noter que l'homme qui reçoit la vision elle-même est lui-même imparfait. Et ça doit travailler avec l'imperfection de cet homme. Dieu a dû attendre 30 ans de plus pour former Moïse. Alors que la captivité était pour 400 ans. Mais ils sont sortis 430 parce que Moïse n'était pas encore prêt. Dieu devait traiter avec ses émotions. Ah, je ne suis pas prêt. Ah, je ne connais pas parler. Ah, je ne suis pas très habilité. Ah non, choisis quelqu'un d'autre. Dieu dit, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Tout ça ne s'est pas passé en un jour. Ça s'est passé en 30 ans. Avant que Moïse ait parti en Égypte, Dieu a travaillé avec lui 30 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vision de Dieu pour votre vie serait accomplie si vous adaptiez vos émotions, vos sentiments sur la parole de Dieu. Voyez, c'est pourquoi vous avez besoin de foi et de patience. Beaucoup de gens de Dieu, des hommes de Dieu, d'enfants de Dieu, sont des gens de foi. Mais ils manquent de patience. Ils manquent de patience. Le manque de patience dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu a fait que certains d'entre nous ont cessé de rester, de demeurer dans la foi. Alléluia. J'écoutais une dame qui était dans le monde. Elle allait dans les boîtes de nuit. Elle était presque une prostituée sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et cette dame, un jour, a connu le Seigneur. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a épousé un pasteur. Alléluia. 2 ans après, non, la première année, elle faisait le témoignage, elle rend grâce. Oh, alléluia. Mon mari, donnez votre vie à Jésus. Jésus est bon. 2 ans après, elle a demandé le divorce. Elle est retournée là où elle était. Elle a repris sa position de prostituée, plus encore même. Elle a créé de nouvelles pages où elle invite des hommes à la regarder et à se faire plaisir. Et ils payent pour ça. Et j'écoutais un de ces messages, elle disait, moi, les chrétiens là, vous n'avez pas le droit de connaître, hein, même un chrétien là, vous devez connaître votre femme avant le mariage. Parce que vous pouvez être surpris dans le mariage. Et les gens l'interpellaient, disaient, tu soutiens l'impudicité. Elle dit, non, c'est pas l'impudicité. Il faut tester la marchandise. Moi, j'ai été déçu. C'est pourquoi je vous aide. Je suis votre coach. J'ai été déçu. L'homme que j'ai épousé, il ne m'a pas satisfait. C'est pourquoi je suis allé dehors. Écoutez, la vision, c'est pour un temps déterminé. Tu ne dois pas sacrifier ton éternité pour un plaisir d'une minute. Alléluia. Sur quoi je vous ai demandé ce matin? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes venus ce matin dans la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes venus comme nous on va à la réunion du village et après on repart dans nos mêmes choses? Alléluia. Et j'écoutais cette femme et je disais que, oh mon Dieu, on est dans quel monde aujourd'hui? On est dans quel monde aujourd'hui? Mais bien aimé, à cause de l'impatience, à cause du manque de foi, à cause du manque de persévérance, beaucoup ont pris de mauvaises décisions. Ils ont pris de mauvaises décisions et sont passés à côté de la vision de Dieu pour leur vie. Dieu ne peut pas mentir. Ses promesses ne peuvent pas échouer. Toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et amen. Mais il se peut qu'il ne soit pas accompli aussi rapidement que nous le pensons, nous le voulons. C'est là que certains d'entre nous ont des problèmes avec Dieu. En effet, Dieu aurait pu montrer certaines choses à certaines personnes, mais elles pouvaient commencer à supposer et à commencer à prédire Dieu en fixant un moment pour l'accomplissement. L'année prochaine, c'est mon année. C'est mon année cette année. Je veux me marier cette année. Je sais. Non. La plupart du temps, nous n'aimons pas qu'on nous rappelle l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui a attendu 25 ans avant que la promesse de Dieu d'avoir un enfant pour eux ne se réalise. C'est long. Et naturellement, cela n'attire pas quelqu'un qui fait confiance en Dieu pour le fruit des entrailles. Alléluia. Ça n'attire pas. Mais c'est dans la Bible. En attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu, Abraham et Sarah ont commis une erreur. L'impatience. L'impatience. Bien-aimé, dans la poursuite de la vision, le diable te présentera toujours un plan B. Ce sera à toi, en fonction de ce que Dieu t'a dit, d'apprécier ce que tu dois faire. Et ça revient à toi. Oh Seigneur, montre-moi. Alléluia. Un jour, le pasteur Thierry Osborne dit qu'un jour, il a eu une vision où il parlait. Il s'est retrouvé et le Seigneur l'a transporté au ciel. Il s'est retrouvé avec le Seigneur et le Seigneur a commencé à parler. Non, c'est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin dit, le Seigneur, il parlait avec le Seigneur Jésus. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur Jésus lui répondait. Et le Seigneur Jésus parlait et lui répondait. Et dans cette communication, il dit, le diable est venu s'asseoir au milieu d'eux. Et le diable regardait. Il dit, il attendait que le Seigneur dise, Satan, quitte de là. Le Seigneur le regardait et le Seigneur continuait, ça ne le dérangeait pas, le Seigneur continuait à parler. Mais il n'arrivait pas à écouter parce que le diable le distrayait. À un moment, il a dit, Seigneur, tu ne vois pas Satan là, tu ne peux pas chasser. Et le Seigneur lui a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. C'est toi que j'attends que tu te lèves pour chasser. Alléluia. Et il a compris que quelque chose n'allait pas. Mais bien aimé, Abraham a commis une erreur en essayant de céder avec sa femme. Mais Dieu a insisté sur le fait qu'il leur donnerait toujours un fils selon qu'il avait promis. La Bible dit une fois, dans Genèse chapitre 17, je pense, et 18, la Bible dit que Dieu va visiter Abraham sur les chaînes de Mamré. Et Dieu va lui dire l'année prochaine, tu auras un fils. Ça, c'était la 24e année. Dieu va lui dire l'année prochaine, qui était la 25e année, tu auras un fils. Et la Bible dit, Sarah a ri. Vous savez, il y a des choses que lorsqu'on vient t'annoncer de nouveau, tu souris. Parce que tu as tellement attendu qu'à un moment tu dis, ah, ça va. Il n'y a pas de problème, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je me suis fait à cette idée. Alléluia. Et la Bible dit, Sarah a ri. Abraham lui-même a ri de la promesse de Dieu de lui donner un fils par Sarah. Parce que la Bible nous dit en même temps que Sarah, Abraham, l'année qui suivait, devait rentrer dans sa 100e année. Et Sarah devait rentrer dans sa 99e année. Ah! Il dit, peut-être tu ne connais pas l'âge qu'on aura l'année prochaine. Dans l'année, si ça nous dépasse, l'année prochaine, j'aurai 100 ans. Alléluia! Mais la vision s'est accomplie. La vision était pour un temps déterminé. Et elle s'est réalisée. Bien que cela ait pris beaucoup de temps, à notre avis, ça a pris du temps. Mais à la vie de Dieu, ça n'a pas pris du temps. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. La vision se réalisera. La Bible nous raconte dans le livre de Genèse chapitre 37 les rêves de Joseph, selon lesquels ses frères devaient se prosterner devant lui. Et nous voyons que lorsqu'il a eu ces rêves-là, mes bien-aimés, ses frères se sont prosternés devant lui. Jamais. Pas au même moment. Ils ne se sont pas prosternés. Pas là. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans un puits. Alléluia. Mais Joseph a travaillé. Malgré le statut d'esclave, Joseph est resté cohérent dans la vision de Dieu pour lui. Il a travaillé. Il a été fidèle dans la maison de Potiphar. Il a été fidèle au pied du pénitencier en prison, au pied du panetier. Il a été fidèle. Et quand le temps de l'échanson et quand le temps de l'élévation est arrivé, vous savez quoi? 17 ans plus tard, la vision s'est accomplie. Ah, tu ne dis pas un bon amen. J'ouvre tes yeux pour te dire que tous ces gens que tu prends en exemple, ils ont mis du temps, pris du temps. Alléluia. Peut-être pour toi, l'accomplissement de ta vision, c'est cette année. Alors, quand ça va se réaliser, personne ne sait le nombre de temps que tu as mis dedans. Ah oui! Ah oui! Personne ne sait le temps. Alléluia. J'ai béni. Papa m'a rendu témoignage. Si ça fait combien de temps qu'il est dans ça? Qu'il est dans ce trou-là? Il parle d'une histoire où cette maman-là a déclaré une parole sur lui. Tu avais quel âge? Hein? 22 ans. Aujourd'hui, il en a combien? Fais la soustraction. Et vois depuis combien de temps il est dans le trou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur, même miracle. Comment fait ça? Chacun son histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il est devenu le premier ministre d'Égypte quand il avait 17 ans. Et quand il a eu 30 ans. Il a fait le rêve quand il avait 17 ans, je vous l'ai dit. Pardon. Amen. Et il est devenu premier ministre à 30 ans. Ça veut dire que 13 années, il a attendu la prophétie. 13 années. Pharaon avait rêvé de 7 années de prospérité et les 7 années de famine qui ont suivi en étaient à leur deuxième année. Lorsque les frères de Joseph sont venus se prosterner devant lui, Joseph leur a finalement révélé son identité. Genèse chapitre 45. Les deux périodes ont donc duré 9 ans encore, donc 13 ans plus 9 ans. Si nous ajoutons 13 ans aux 7 années de prospérité et aux 2 années de famine, cela fait 22 ans d'attente. 22 ans que Joseph espérait pouvoir la manifestation de la vision. Le rêve de Joseph a donc mis 22 ans pour se réaliser. Pendant cette période, ces deux rêves ont dû ressembler à un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois qu'il restait, il dit que, dis donc, ça c'est vraiment, j'étais fou. Je crois que j'étais fou. J'avais dû fumer un truc pour rêver un truc comme ça. Ça ne peut jamais se réaliser. Regarde où je suis. Je suis esclave. Mes frères, c'est mes frères qui m'ont vendu. Comment ils peuvent se prosterner devant moi? Par quel miracle? Alléluia. 22 ans plus tard, Genèse chapitre 45, ses frères arrivent et même son père. Et ses frères se prosternent tous. Et je suis sûr que c'est ce jour-là que la vision est revenue dans sa tête. Il dit, yeah, j'ai vu ça. Ah, voilà ça. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il a pleuré. Tout l'Égypte a entendu ses pleurs. Il a pleuré. Toute l'Égypte a entendu les pleurs de Joseph. C'était les pleurs de 22 ans qu'il avait gardé en lui. S'est déchargé le jour-là. La souffrance de 22 ans. Il dit donc, il fallait passer par là pour ça. Pour ça. Bien-aimé, toute vision provoque le mépris, provoque la honte et l'humiliation. Provoque. Regardez Job. Job avait une grande vision. Mais les événements sont venus lui prouver qu'il n'avait plus de vision. Qui devait survivre à sa vision? Ses enfants sont tous morts. Les business, tout est foutu. Sa propre femme est venue dire que mon frère, il faut oublier la vision là. Maudit Dieu, aimer! Laisse-moi tranquille. Oui, parfois même, regardez Sarah, n'eût été la miséricorde de Dieu, Sarah aurait déconnecté Abraham de la vision. Regardez Ève, elle a déconnecté notre père Adam. Toi et moi on souffre dans la chaleur comme ça, c'est ça? On serait tous au ciel, là, vous tous là, vous tous là, vivant l'éternité, louant Dieu. Si maman Ève avait été un tout petit peu patiente. Mais parce qu'on nous tue, c'est compliqué. On vit avec les émotions, les sentiments, les émotions, les sentiments, les émotions. Et on passe à côté des choses importantes de nos vies. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? La vision est pour un temps déterminé. Dis à quelqu'un, la vision est pour un temps déterminé. La vision est pour un temps fixé. La vision est pour un temps fixé. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas très bien. Alléluia. La vision est pour un temps fixé. C'est quoi? Tu ne dois pas désespérer. Ta vision, ton rêve, ta prophétie se réaliseront. Ah, tu n'es pas convaincu. Voilà pourquoi tu es encore là. Les émotions encore. Les sentiments, c'est ça que... Amen. Tu regardes ta situation. Amen. Alléluia. Je répète, ta vision, ton rêve, ta prophétie se réaliseront. J'ai dit, ça se réalisera. Oui? Joseph est allé de la maison de son père à la fosse, à la maison de Potiphar, à la prison et enfin au palais. Cependant, il a régné en tant que premier ministre dans le même pays où il était à la fois esclave et prisonnier. Il a régné dans le même pays. On ne l'a pas déplacé. Oh Dieu, sauve-moi de la fosse. Laisse-moi aller ailleurs. Laisse-moi aller ailleurs. C'est ici que tu dois régner. Non, ta main est bizarre. C'est dans ce business que tu dois réussir. Dans le même business où tu as échoué. Alléluia. C'est dans le même business. Regardez. Est-ce que vous savez que le physicien Einstein a fait 6 fois la classe de cinquième? De cinquième, et son professeur écrit sur son bulletin, inapte aux mathématiques. Alléluia. Inapte. Mais il a créé la formule de la bombe atomique. Là où on a dit il est inapte, il est devenu le plus grand physicien, le plus consulté au monde. Alléluia. J'ai une petite vidéo que je vais balancer dans le forum. Il y a le premier ministre Haché de la Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre, parce qu'il était, il a démissionné l'ancienne mandature de Alassane Ouattara. Et j'écoutais ce qu'il racontait. Il est allé visiter les enseignants, les universités, et il racontait son histoire. Il a échoué 4 fois le CP. Amen. Il dit que moi j'ai échoué 4 fois. Tout le monde dit que merde, même le CP, mon frère. Il dit que non, ce n'était pas facile. 3 fois, son père est venu voir l'enseignant, dit que pardon. Je suis ingénieur. S'il reste ici, il va devenir cacoculteur. Pardon, essayez de le pousser. Pour que ne serait-ce qu'il puisse même avoir même le CPE. Là, on peut voir comment il peut faire la mécanique. Alléluia. On l'a poussé. Il est allé en CP2. Il a encore échoué. Il est allé échec en échec. Et il dit quelque part que je n'aurais jamais imaginé que je serais aujourd'hui premier ministre dans ce pays. Jamais. Il dit, frère, j'ai échoué. Il dit, vous savez pourquoi j'ai échoué 3 années? Demandez-moi pourquoi. Parce que je suis venu du village, je ne connaissais pas un mot en français. Je ne parlais que le patois. Pendant 2 ans. Donc, tout ce qu'on disait en classe, je ne comprenais rien. Il fallait que je, à la fin du cours, je cherche un gars de mon village pour qu'il me traduise ça en patois. Pendant 2 ans, il traduisait en patois pour que je dise, ah, hein, c'est ce qu'il dit. Donc c'est tout ce qu'il disait. Alléluia. Il dit, je suis arrivé au CP, j'ai échoué. Il dit, du CP1, CP2, j'étais le dernier de la classe. Il dit, j'étais dernier de la classe. Il dit, pas dernier là, dernier. Moi, ça m'a marqué. Combien de personnes peuvent rappeler là où ils sortent? De cette manière. Je vais mettre ça dans le forum Telegram. Vous allez écouter. Peut-être ça va aider quelqu'un à comprendre que lorsqu'un homme a une vision, il connaît aussi les difficultés. Il connaît de grandes difficultés même. Mais ça n'annule pas la vision en lui s'il est persévérant. S'il est persévérant. Aujourd'hui, tu connais telle chose. Ah non, vraiment, je ne suis plus là. J'abandonne. Ah non, non, je ne suis plus là. J'abandonne. Ah non, je ne suis plus là. J'abandonne. Ah non, je ne connais pas faire ça. Je ne connais. Non, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu passes ton temps à te morfondre sur toi. Ma question ce matin. Ma question, qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi pour ta génération? Peut-être toi tu crois que ta part c'est seulement le mariage. Hein? Peut-être tu crois que ta part c'est seulement avoir les enfants, hein? Donner les enfants à ton mari, comme les balles. Non. Peut-être tu crois que ta part c'est voyager. Peut-être tu crois. Non. Au-delà, écoutez, ça c'est ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Alléluia. Mais derrière ça, il y a une vision. Tu dois connaître ta vision. Dis à ton voisin, quelle est ta vision? Non, je vends les caramels. C'est ma vision. Ce n'est pas ta vision. C'est les mesures d'accompagnement. C'est le temps pour que tu découvres où tu vas. Tu as vu quel monde se développait avec les caramels? Alléluia. Non, Pasteur Victor, il est devenu riche en vendant des achats. C'est faux. C'est faux. Mais pourquoi tous les gens qui vendent les achats ne sont pas des milliardaires? C'est faux. Il a fait des affaires. À un moment donné, le président Ayidjo leur a permis d'avoir des crédits qui leur a permis de faire des bonnes affaires. De prospérer. Ils ont eu des opportunités. L'arachide est resté loin derrière. Alléluia. Alléluia. Mais c'était une étape pour discipliner sa vie. C'était une étape pour focaliser son attention vers là où il partait. En vendant les arachides, il se disait en lui-même, je serai riche. Je serai un des hommes les plus riches de cette terre, de ma nation. Alléluia. Dieu le lui a accordé. Regardez notre papa Monkam. Regardez. Vous avez vu son français. Toi, tu parles bien français. Toi, tu parles bien français. Vous avez vu quand il a fait il a fait son témoignage au deuil de son ami Kadji de Fosso. Il ramassait le français. Mais il pèse lourd. C'est un homme qui avait une vision. Regardez ce qu'il allait construire en plein Bonapriso. Mais il faut avoir la vision, frère. Il faut avoir la vision. Parce que ça coûte un prix. Il a choisi un lieu stratégique. Il a conçu l'un des hôtels les plus luxueux dans la ville de Douala et même dans le Cameroun. Il allait poser ça là-bas. Et ça attire l'argent. Ça attire. Il ne fait plus d'efforts, l'argent entre. Tout le monde veut dormir là-bas. Tout le monde veut faire ses événements là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Tous les jours, tu es sur Novelas. Ce n'est pas une vision. C'est une distorsion de la vie. Oh. Tu n'étais pas là. Tel a jalousé tel est. C'est quoi ton histoire? Chaque jour tu t'assois, les batailles des chéris. Tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Ça a développé la vie de qui? Alléluia. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Tu dois sortir de ta zone. Tu es toujours. Pourquoi vous avez les émotions? Parce que vous êtes dans des séries bizarres. Vous êtes dans les séries novellas. C'est les séries novellas. Il y a trop d'émotions dedans. Tu regardes, tu pleures. Quelqu'un, l'argent dans ses poches. L'argent dans ses poches. Toi, tu es dessus. Tu es déçu. Maman, il faut que je voie la rediffusion aujourd'hui. Maman, j'ai pas pu voir la scène d'hier là. Ah, non, il faut que je voie aujourd'hui là. Mes bien-aimés, les feux de l'amour, tu es déçu. Les feux de l'amour qui ont élevé nos parents. Alléluia. La mère a vu, l'enfant vient y voir, le petit enfant vient y voir. La majorité des adultes sont à mort. Dallas, tu es déçu. Tu veux que j'en cite encore? Tu es déçu. Pourquoi ces trucs? Aujourd'hui, tu es sur Bachelor. Tu es un homme ou une femme de vision. Tu fais quoi sur Bachelor? Bachelor, c'est une série qui a été créée pour détruire le mariage et pour introduire la prostitution dans la vie des hommes. Et vous êtes déçu. Un homme qui couche avec 7 femmes et vous regardez. Non, telle était méchante. Les gens se dénudent devant vous. Vous êtes là, les enfants de Dieu vous acclamez et vous dites que demain vous allez réussir. Bachelor va gouverner ta marge. Lève-toi. Tu as une vision. Les séries comme 4 mariages, c'est quoi là? Lune de miel. Écoutez, est-ce qu'elle peut vous aider? Vous savez pourquoi ce truc-là a été créé? Regardez, la Bible dit le mariage est l'une des plus... est la première institution biblique. Et la Bible dit que le lit conjugal doit être honoré. Et la Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous. C'est ça, n'est-ce pas? Mais sur cette histoire-là, on vient juger les mariages des autres. Le mariage qui est de Dieu, on juge à la télé. Et vous vous asseyez. Non, celle-là, elle a fait les assiettes moins que l'autre. Non, celle-là, son service return n'était pas bien. C'est sûr que si le frère Abel était là-bas, il allait bien préparer. Un homme de vision, une femme de vision, c'est ce que ses yeux regardent. Parce que ce que tu regardes doit être en conformité à là où tu vas. Doit être en conformité à ce que Dieu veut faire avec toi. Alors si tu te laisses façonner par des séries comme ça, c'est normal que tu es rempli d'émotions. C'est normal que même pour choisir le fiancé, tu as besoin qu'il soit comme Sergio dans Marima. Il vient sur un cheval blanc. Et quand il arrive à la maison, il te dit, mouf, tu t'énerves, tu dis, ah, il n'est pas maintenant. Parce que Sergio, il est parfait. Alléluia. Il peut avancer. Tu as une vision. Dis à quelqu'un, tu as une vision. Dis à quelqu'un, ne te distrais pas. Arrête de te distraire. Il y a des choses que tu ne me verras pas m'asseoir regarder. Hein. Parce que ça va pourrir mes pensées, ça va pourrir mon cerveau. D'autres vont dire, ah, je regarde ça seulement pour perdre le temps. Non. Ton disque, Dieu enregistre. Tu enregistres. Et demain, ça va répercuter dans les expressions de tes appréciations dans la vie. C'est ça le travail des influenceurs. Aujourd'hui, vous êtes connecté au pas des homosexuels parce qu'on vous a influencé. Oh Dieu vous dit non, c'est sa vie. Chacun sa vie. Parce qu'on vous a influencé. Alléluia. Avant, tu pouvais entendre ça. Avant, on pouvait même mentionner ça au milieu des gens. Même les païens, tu ne pouvais pas mentionner l'homosexualité à côté d'eux. Non. Aujourd'hui, on en discute. Ah, on rigole même. On rigole même. Même les pasteurs, on en trouve maintenant dans l'église. Même des pasteurs eux-mêmes. Ah, c'est leur vie. J'ai un ami qui est homosexuel. C'est sa vie, hein? Comment tu es un ami? Tu es un ami qui est du diable. Toi, tu es de la lumière. Hein? Tu es un ami homosexuel? Non. Et ta vie ne l'influence pas pour sortir. Non, tu as un problème. Tu as un problème. Mais je ne peux pas avoir d'amis comme ça. Je ne peux pas. Parce que dans l'éducation de Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Sauf si tu caches bien et que je ne suis pas au courant. Mais si c'est ouvert, que tu, je suis au courant. Tu es mon ami, non, je te dis. Moi, j'aime que les garçons, comme je suis garçon. Hein? Et toi et moi, on marche ensemble. Toi et moi, on marche ensemble. Une de mes enfants m'a dit ça ici un jour à une de nos réunions des jeunes, qu'elle a sa copine qui aime les filles et lui a fait même des avances à elle. Il dit c'est ton ami. Et elle a mis sa photo à elle sur son profil. Elle a dit mon crush. C'est ce que vous dites, non? Mon crush. Crush, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon idole, mon béguin, mon idole, mon béguin. J'ai dit, donc c'est ta photo qui est sur sa... Tu es sur l'autel de l'homosexualité. Hein? Chaque jour qu'elle cite ton nom retentit dans le monde des ténèbres. Et demain, toi-même, tu vas te retrouver à dire, ben, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste... Et c'est parti! Et demain, les parents vont envoyer un garçon en Europe, il va revenir fille. Allons accueillir notre enfant qui est revenu. Tout le monde voit quelqu'un qui sort avec une robe. Jesus. 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 Que Dieu nous aide. Oh, tout ça, c'est manque de vision. Tout ça, c'est manque de vision. Tout ça, c'est manque de vision. Alléluia. Alléluia. Voyez dans la vie de Joseph. Si vous voulez connaître la grandeur de la souffrance de Joseph, regardez les noms qu'il va donner à ses enfants. Manassé et Ephraïm. Alléluia. C'était les noms qui exprimaient sa douleur de 22 ans. Manassé. La Bible dit, Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Toutes mes peines. Alléluia. Et la Bible dit que il donna le deuxième, Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Genèse chapitre 41. À partir du verset 51 au verset 52. Je voudrais t'interpeller à une réflexion sur ces deux noms-là. Alléluia. Vous pourriez être dans votre propre fosse en ce moment. Papa Emma a parlé de sa fosse tout à l'heure. Dieu est venu le sortir. Alléluia. Ou probablement vous êtes en prison, dans une situation de prison, votre liberté est menacée. Mais je voudrais te dire ce soir, ce matin, ce n'est pas encore la fin. Je dis, ce n'est pas encore la fin. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Mais la joie vient au matin. Psaume 30, le verset 5. Ayez foi en Dieu. Ne jetez pas votre vision, votre rêve ou votre prophétie à cause de vos difficultés actuelles. Ne faites pas l'erreur d'Ésaü. Il a vendu sa vision pour la nourriture. pour la nourriture, pour la nourriture. Ah! Qu'est-ce que c'est qu'un droit d'aînesse alors que je m'en vais mourir? Mais pourquoi alors tu te plains après? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu veux tuer Jacob? Pourquoi tu veux tuer Jacob si le droit d'aînesse là ne te servait à rien? C'est après que ses yeux se sont ouverts que celui qui a le droit d'aînesse a droit à toute la bénédiction paternelle. Elle est héritier. Alléluia. Mais bien-aimé, n'y jette pas ta vision, ton rêve ou ta prophétie à cause des difficultés actuelles. Les gens peuvent t'avoir persécuté, s'être ligué contre toi, t'avoir saboté ou avoir conspiré contre toi pour faire échouer ta vision. Mais note ceci, ils ne peuvent pas tuer ta vision. Ils ne peuvent pas empêcher ta prophétie ou ton rêve de se réaliser. Ils ne peuvent pas. La seule personne qui peut tuer ta vision, c'est toi-même. C'est toi-même. Bien que Samuel ait ou un David comme roi, il n'a jamais été question qu'il s'asseye sur le trône. Il est devenu un fugitif, fuyant Saül lorsqu'il avait aidé à tuer Goliath, le champion philistin. Ce dernier était envieux de David et voulait le tuer. Samuel, qui avait ou un David comme roi, était mort avant que David ne devienne roi après la mort de Saül. Mais il n'est pas d'abord devenu le roi de toute la nation. Ce fut un long processus. Voyez, David a fait 15 ans d'exil. 15 ans d'exil. Alléluia. Samuel a oint. Et David a été oint 3 fois. C'est le seul roi d'Israël qui a été oint 3 fois. 3 fois. Premièrement, il a été oint par Samuel. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 12. Après la mort de Saül, les hommes de Juda, sa tribu, l'ont oint comme roi sur Juda. Alléluia. 2 Samuel chapitre 2. Plus tard, la maison d'Israël sont venus à Hébron et ont oint David encore comme roi de tout Israël. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. 3 fois il a été oint. 3 fois. Alléluia. Et avant que David ne devienne le roi de toute la nation d'Israël, il a été oint 3 fois. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4 à 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Voyez, la vision portait pour un temps déterminé. Et elle s'est réalisée. Votre vision est pour un temps déterminé. Croyez ce que Dieu vous a dit. Croyez que cela s'accomplira. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a dit à Marie lorsqu'elle est venue lui rendre visite, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Heureuse, heureux toi qui as cru. Heureux. Luc chapitre 1, le verset 45. Et surtout, ne méprisez pas les progrès que vous enregistrez. Ne méprisez pas les progrès que vous enregistrez vers l'accomplissement de votre vision et de votre rêve, aussi petit soit-il. Vous voyez? Ne méprisez pas. Zacharie chapitre 4, le verset 10. Il dit, ne méprisez pas vos petits ou faibles commencements. Ne méprisez pas. Parfois, les petits efforts là s'appliquent dans votre caractère, dans votre comportement, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire et d'agir. Alléluia. Forcément, l'argent n'arrive pas automatiquement. Forcément, les réussites sur le plan matériel n'arrivent pas immédiatement. Mais d'abord, de l'intérieur, il y a un travail qui est fait. Et ces petites choses-là, ne les méprisez pas. Ne les méprisez pas. Parce que pour qu'il y ait un étage comme celui-ci, il faut une fondation. Il faut une fondation. Alléluia. Et en général, Dieu commence la construction d'un homme par le bas et non par le haut. Et c'est pourquoi ça prend souvent du temps. Parce qu'on est pressé de voir le haut. On est pressé de voir la toiture. Mais on n'est pas du tout pressé de voir comment on règle en bas la fondation. Alléluia. Eh bien, aimé. Deutéronome chapitre 7, verset 22 au verset 23. Regardez ce que le Seigneur dit concernant les Israélites. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Alors notez le mot peu à peu. Peu à peu. Peu à peu. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu. Bien-aimé, tes batailles ne vont pas finir d'un trait. Dieu va enlever peu à peu jusqu'à ce que tu comprennes chaque chose. Alléluia. La vision est pour un temps fixé. C'est quoi? Tu dois mener une bonne guerre contre les retards démoniaques, les obstacles et les frustrations. Tu dois prier contre l'esprit d'erreur, d'incrédulité, d'impatience. Tu dois obéir à la parole de Dieu et aux instructions divines. Et tu dois arrêter d'être inquiet ou anxieux. Tu ne dois surtout pas t'arrêter de prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, qui nous exhorte à prier sans cesse. Priez en tout temps et en toute occasion dans la puissance du Saint-Esprit. Ephésiens 6, le verset 18. Alors pendant que vous attendez l'heure fixée, soyez fidèles là où vous êtes. C'est là où je vais terminer. Pendant que vous attendez l'heure fixée, pendant que vous attendez que la vision que Dieu vous a donnée s'accomplisse, soyez fidèles dans la vision où vous êtes planté. Soyez fidèles. Si Ruth n'était pas fidèle auprès de Naomi, elle n'aurait jamais été l'épouse de Boaz. Elle n'aurait jamais été l'ancêtre de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Soyez fidèles là où vous êtes. Luc dit, Luc 16, à partir du verset 10 au verset 12. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous voyez? Qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, combien de personnes sont déjà allées au camp Yabassi? Ok? Combien de personnes ont déjà eu à faire face aux vendeurs de pièces détachées, les Nigérians qui sont là-bas? Alors, quand vous arrivez dans leur boutique, vous voyez qu'il y a toujours des petits garçons qui vendent, n'est-ce pas? Et quand vous revenez un ou deux ans plus tard, vous ne le retrouvez plus, n'est-ce pas? Mais vous le retrouvez peut-être un peu à côté avec une boutique. Qu'est-ce qui se passe? Ce que les Nigérians font très souvent, c'est que chaque fois qu'ils prennent un aide, qu'ils les accompagnent dans leurs travaux, quand la personne est fidèle, la personne a le devoir, le propriétaire a le devoir de lui ouvrir son propre fonds. Et c'est comme ça qu'il se développe. C'est comme ça qu'il se développe. Bien-aimé, si tu n'es pas fidèle dans la chose d'autrui, si moi je te donne mon téléphone d'arrêter et tu prends mon téléphone, tu casses, qui te donnera un téléphone pour toi-même? Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, tu es dans la vision de quelqu'un, tu es en train de faire quelque chose pour quelqu'un, tu es en train de vendre pour quelqu'un, tu es en train de faire le business de quelqu'un, tu es en train d'aider quelqu'un dans une entreprise, dans un projet. Mais tu fais ça comme ça. Ah, c'est parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne comprends pas la loyauté dans le travail. La loyauté. La loyauté. Si tu travailles n'importe comment, demain quand ce sera ton tour, c'est la même chose avec les enfants, hein. Si papa, maman te dit fais comme ça, tu prends n'importe comment. Demain, quand tu vas te marier, tu vas comprendre. Le remboursement de la réunion va avoir lieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde a le tout chez le coiffeur. et chaque fois, et parfois ils ne croient pas ce que tu aimes. Alléluia. Alors si tu as une tâche, une responsabilité quelque part, fais-le avec la dernière détermination. Voyez, aujourd'hui beaucoup de gens estiment qu'ils n'ont pas de temps. Vous savez, c'est faux. Vous savez pourquoi les fast-food existent? Fast-food, ça dit nourriture rapide. C'est parce que ceux qui, les grands investisseurs américains, ils se sont assis, ils se sont rendus compte que chaque fois qu'il y avait la pause, les gens prenaient trop de temps pour manger. Et ça les faisait perdre de l'argent. Alors ils ont créé ce qu'on appelle les fast-food. Aujourd'hui, tu vas dans un fast-food, tu crois que c'est la modernité. Non! C'est pour gagner du temps qu'on a créé ça. Et pour que vous mangez à la va-vite et vous le produisiez de l'argent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une stratégie pour gagner du temps et pour avoir plus d'argent. Alors tu manges 30 minutes, tu travailles 2 heures. Alléluia. Et ça lui rapporte de l'argent. Mais si tu devais aller à la pause, avant, quand nous on fréquentait, il y avait la pause de midi. Tu allais à la maison, tu dormais, tu revenais à 14 heures. C'est pas ça? Ça existe encore? On a dit journée longue. C'est quoi nos enfants? On ne sait pas si ça les rend intelligents ou ça les rend bêtes. On ne sait plus. La journée longue, là, on ne sait plus. Mais nous, on rentrait à midi, on dormait et on repartait à 14 heures, plus frais. Et parfois, maman pouvait changer ta tenue. C'est-à-dire que la tenue du matin, ce n'est pas la tenue du soir. Et quand tu vois un gars, tu crois que c'est un charbonnier. Alléluia. Quand David rentre le soir, tu dis, mon fils, c'est la tenue ce que tu es parti avec. Alléluia. Mais bien-aimé, soyons sérieux. Et encore plus dans la maison de Dieu. Quelle que soit la tâche que tu as, tu dois t'organiser pour cela. Regardez, mercredi dernier, je parlais sur le management et l'organisation. Et je disais que le management, c'est la capacité d'organiser les choses en étapes. Et je démontrais dans la Bible comment, et j'ai trop à conseiller à Moïse d'organiser les responsabilités de manière à ce que le travail soit décentralisé et que Moïse s'occupe que des affaires très très compliquées. Et les autres s'occupent des affaires courantes. Alléluia. Jésus lui-même, lorsqu'il doit nourrir les 5000 personnes, il a subdivisé les gens en 100, en 50. Il les a fait asseoir et à la fin, il y a eu 12 paniers de pain supplémentaires restants. Lorsque tu t'organises, tu peux voir là où ça manque facilement. Et tu peux voir là où il y a plus et tu renvoies là où ça manque. Mais lorsque tu n'es pas organisé, tu rends le sang. Ah, j'ai beaucoup travaillé. Tu n'as pas travaillé, tu t'es épuisé. Tu as couru. Et à la fin, ça ne t'a rien rapporté. Alors vous allez voir des gens aujourd'hui travailler 3 heures de temps, 4 heures de temps, gagner 100 fois ce que toi tu gagnes. Tu vas dire non, c'est parce qu'il est trop riche. Non, c'est parce qu'il est stratégique et organisé. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons être stratégiques et organisés. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, comment recevrez-vous la vôtre? Comment? Si tu n'es pas fidèle auprès de ta maman, quand tu vas te marier, qui va te coudre ta part d'habit de mariage? Alléluia. Alléluia. Alors ne soyez pas pressés. Attendez le temps fixé. s'il semble lent, ne perdez pas espoir. Il s'accomplira sûrement. Soyez seulement patient. Le temps fixé viendra et il ne sera pas retardé d'un seul jour. Dis à quelqu'un, il ne sera pas retardé d'un seul jour. Il ne sera pas retardé d'un seul jour. Il ne sera pas retardé d'un seul jour. Alléluia. Je vous donne ce texte, vous allez le méditer à la maison. Je crois que c'est... Je l'ai donné hier à maman. Voilà, c'est ça. Ézéchiel 12, vous allez prendre à partir du verset 26 au verset 28. Amen. 26 au verset 28. Lisez-le à la maison. Déclarez-le dans votre vie. Voici ce qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Verset 28. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dieu me dit de te dire ce matin. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la persévérance. 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 Au nom de Jésus. Oh Dieu, alors que je m'attends à toi pour l'accomplissement de ma vision, donne-moi la patience. Donne-moi la persévérance. Donne-moi la patience. Donne-moi la persévérance. Anime-moi de patience. Ouvre-moi de patience et de persévérance pour avancer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Alors que nous partons de ce moment,